Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il faut comprendre le son comme un objet qui se compose de la matière du son. L'intonation, c'est la mélodie. Le courant n'est pas acoustique, mais énergétique. L'acoustique est seulement une enveloppe. Il faut bien distinguer dans la technique verbale la différence entre vélocité et force. Il y a des énergies qui sont liées à la physique, d'autres à l'énergie. Parler fort, c'est une faculté. Aujourd'hui, dans le théâtre contemporain, pour augmenter la force, on utilise le micro. Mais la pratique verbale s'appuie sur des principes opposés. L'appareil physique est secondaire. Il y a d'un côté le travail musculaire, la force, de l'autre, le travail énergétique. Tout le travail que tu as à faire avec m'aider, à avoir avec la libération. Comment libérer ? Ce sont les mots d'Anatoly Vassiliev en répétition que vous partagez avec nous, Valérie Dréville, pour une petite leçon de radio au passage dans votre journal Face à Médée, publié aux éditions Actes Sud. À plusieurs années d'intervalle, il vous met en scène dans Médée Matériaux d'Aina Müller et c'est le journal de cette reprise. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être là.
Bonsoir, merci.
Vous publiez dans ce livre une lettre d'Anatoly Vassiliev et on l'écoute.
Salut Valérie. Salutations de ma part et de la part de Vadim Petrovitch. Tu ne l'as pas encore oublié ? Salutations de la part de tous qui t'aiment et sur qui tu as produit une impression inoubliable. Et encore une fois, salutations de moi. Et de Natacha, qui va sans doute ajouter ses propres détails au contenu de toutes ces salutations. Nous tous, nous t'aimons et nous pensons à toi. Tu sais que j'ai fait une visite à Strasbourg. J'étais avec Stan et il a parlé avec moi de faire une reprise de Médée Matériaux sur la scène du TNS. En 2017, quand tu auras 55 ans. Mon métier est dépourvu de honte comme le tien. Donc parlons d'abord de ce chiffre. Tu veux refaire cette représentation publique de Médée où tu te trouves nu, jambes écartées, à quelques mètres des spectateurs. Une question. Est-ce que tu sens que ton corps peut être présenté, si ce corps, pas toi-même, juste ton corps, a plus de 50 ans ? Avant que moi je décide, il faut, selon toutes les obligations professionnelles, que tu prennes ta décision, aussi. Et cela signifie que tu relèves un vrai défi, un challenge. La qualité même du tragique, sans cette qualité, tout reste simplement dramatique, demande de l'abstraction. Et doit être capable de se présenter en abstraction. Je me souviens très bien comment, dans le passé, même lorsque tu étais enceinte, ou juste après ton accouchement, tu étais parfaitement capable de maîtriser ce phénomène. Vraiment, je dis ça avec le signe de l'exclamation, ma très chère Valérie. Mais comment cela se passe-t-il maintenant ? Est-ce que je peux être sûre ? Est-ce que je peux répondre positivement à la proposition de Stan ? J'ai dit avec franchise à Stan que je vais t'écrire et que nous allons décider ensemble, toi et moi, ce qu'on va faire finalement. Et encore une circonstance importante, je ne l'ai pas mentionné à Stan. Cela concerne ta vie artistique menée sans moi, ainsi que ta vie personnelle, ma chérie. Elle était comment cette vie ? Est-ce que cette vie t'a beaucoup changé ? Beaucoup de temps a passé. Mais Des Matériaux est une œuvre extrême qui demande des efforts extrêmes de la part de l'actrice. Personne à part toi ne pourra jouer ce spectacle comme tu l'as joué dans ces années-là. Ce n'était même pas une tragédie, mais plutôt un mythe, un acte sacré. Même pour toi, parfois, c'était difficile, mais on a continué à répéter pour éviter les erreurs. Il s'agissait des trainings, des expériences de pratiques spirituelles, ou au moins de ton intérêt pour ces pratiques. Tout était là. Aussi ton travail sur le rôle de Thérèse Philosophe, surtout ce monologue que nous avons perdu après, ce troisième acte exclu du spectacle. Tout était magnifique. Malheureusement, tu n'as pas continué ce travail. Bien sûr, il y avait des raisons valables. Mais quand il s'agit des pratiques spirituelles, les raisons pour ne pas pratiquer n'existent pas, ou presque. Tu vois, il y a ces deux circonstances qui existent, et je ne sais pas vraiment laquelle des deux est la plus importante. Mais toutes les deux sont déterminantes pour moi, en ce qui concerne la possibilité de reprendre Médée. Et toutes les deux sont objectives. C'est comme ça. Et je ne sais pas encore quelle sera notre décision. Pardonne-moi cette sincérité, je sais que cela est plutôt insolite et mal vu dans le milieu du théâtre en France, mais je voulais surtout être complètement ouvert avec toi. Si nous décidons ensemble de jouer notre Médée à partir de 2017, cela va signifier, Non, ce n'est pas suffisant. Je dirais autrement. Cela va te déterminer toi-même vers une vie nouvelle. Pardonne-moi encore une fois, ton Anatoli.
On est le 7 juillet 2015 et Anatoli Vassiliev vous envoie cette lettre, Valérie Dréville, que vient de lire Romain de Becdelièvre et que vous reproduisez dans ce journal de répétition, journal de reprise. Et je trouve que dans cette lettre, on entend ce que vous décrivez bien plus tard dans les pages, c'est-à-dire la pluralité des matériaux de votre propre relation avec Vassiliev. C'est-à-dire que parfois il est extrêmement direct sur le rapport qu'il entend, du travail qu'il entend mener avec vous. Et puis la phrase d'après, c'est « Quelle a été cette vie, ma chérie ? Comment a été ta vie pendant que nous n'étions pas en mesure de nous embrasser, de nous dire bonjour, de partager un verre ou un bouquet de fleurs ?» Comment est-ce que vous décririez cette relation très particulière avec Anatoli Vassiliev ?
C'est comme s'il était plusieurs personnes. C'est-à-dire, pendant les répétitions, il est toujours... Il est extrêmement sobre, mesuré, il parle relativement peu, ou en tout cas suffisamment pour qu'on se mette en mouvement. Le mouvement, dans le livre, c'est très, ça revient tout le temps, c'est très présent. Pour lui, le théâtre, c'est le mouvement. Voilà, donc ses paroles sont dirigées vers ce mouvement. Et puis aussitôt que la répétition est terminée, on peut faire une fête pour un anniversaire ou parce que, je sais pas, c'est les rois ou je sais pas. Et tout à coup, il devient, je sais pas, comme un grand-père. C'est très surprenant à observer. C'est vrai. Je ne sais pas si on a un rapport amical, privé. À vrai dire, je crois surtout que notre rapport existe à l'intérieur du travail et qu'il prend différents aspects suivant les circonstances. Mais je ne sais pas ce qu'on ferait si on se rencontrait sans projet, sans travail. Je ne sais pas si on aurait quelque chose à se dire et si on ne serait pas des étrangers finalement. C'est intéressant.
Lorsque vous recevez cette lettre, le 7 juillet 2015, est-ce que vous en êtes surprise ?
Non, pas du tout. C'est lui à 100%. J'en suis pas surprise. J'en suis heureuse parce que je retrouve cette sincérité, cette franchise, cette ouverture qui pose finalement des questions tout à fait légitimes. Il a raison de les poser et j'ai essayé de lui répondre le mieux que j'ai pu.
Vous publiez d'ailleurs votre réponse et vous lui dites que concernant le corps et la nudité d'une femme dépassée 50 ans ou 55 ans, vous ne le vivez pas de cette manière-là et vous envisagez pouvoir complètement reprendre mes dématériaux sans avoir à trembler de cette idée d'être nue devant le public avec le corps dont il suppose, Vassiliev, qu'il a changé pendant ces années-là et qu'il s'inquiète. Il s'inquiète de quoi, selon vous ?
Ah, il s'inquiète de à quoi ça ressemble. On sent après. Bon, je sais pas, peut-être il sait pas qu'une femme à plus de 55 ans, elle peut encore être très belle. Il faut qu'il se rende compte. Je lui en fais part, premièrement. Deuxièmement, je lui explique que, en fait, la nudité, que ce soit à l'époque, il y a maintenant... C'était en 2000 la première création de Médée, ou que ce soit il y a 11 ans quand j'ai fini de jouer le spectacle, ou que ce soit l'année dernière quand j'ai repris. Finalement, la nudité n'a jamais été un problème. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un problème pour moi en général. Elle l'est absolument. Moi, je suis quelqu'un.
Ce que vous précisez dans la lettre, d'ailleurs.
Très très pudique. Hein, je me déshabille ni. Dans la vie privée facilement et encore moins sur une scène. Mais ce que je lui dis dans la lettre, c'est que oui, cette nudité-là, et c'est drôle d'ailleurs parce que quand on a créé le spectacle, c'était à Moscou, donc dans son petit théâtre, dans son premier théâtre, rue Povarskaya, on a commencé par travailler sur le texte, sur l'action verbale, pendant... 1 semaine, 10 jours, on a fait très vite le spectacle, la première fois. Et puis, une semaine après, on a commencé à ne travailler que la mise en scène seule, sans texte. Et là, il m'a raconté toutes les actions du début jusqu'à la fin. Et je parlais à peine russe. Et il m'a dit que j'allais être nue. En russe, le mot c'est «обнажённая». Et sans comprendre le russe, ni connaître ce mot, j'ai compris que j'allais être nue. C'était d'une évidence absolue pour moi. Et oui, voilà, je disais dans la lettre, cette nudité ne me dérange pas, sans doute parce qu'elle est prise dans la puissance du mystère. Voilà, et par contre, ce qui se passe avec la parole, avec la voix, là, est beaucoup plus intimidant et impudique pour moi. Oui, là, je me sens nue. Là, je me sens parfois gênée, comme si j'étais quelqu'un d'autre, ou comme si je montrais ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est plus que la nudité encore. Ça va plus loin. Donc, la nudité à côté me paraît être, mais vraiment une formalité, quoi. Je n'y pense jamais. Ce qui ne serait pas le cas si j'étais dans d'autres circonstances.
La deuxième question qu'il vous pose dans cette lettre-là, après les chaleureuses et belles salutations du départ, c'est: qu'est devenue cette vie? Qu'est-ce qu'elle a été cette vie? Et qu'as-tu fait du théâtre? Qu'as-tu fait des pratiques spirituelles que nous avons expérimentées ensemble? J'ai trouvé que le moment où elle arrive dans la lettre de Vassiliev, elle est vertigineuse, cette question, Valérie Dréville. Comment vous l'avez reçue, cette deuxième question, après celle de la nudité?
C'est une question qui, moi, ne cesse pas de me tourmenter, c'est-à-dire et la question de la vie professionnelle, de la vie artistique, de ma vie dans l'art, comme disait Stanislavski, et donc des pratiques spirituelles. Il utilise ce mot, moi je l'utiliserai pas comme ça, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit, mais pourtant c'est vrai. C'est spirituel, le théâtre. C'est une pratique spirituelle. C'est un travail sur soi-même qui mérite ce mot de spiritualité. Qu'est-ce qu'on fait du théâtre dans sa propre vie? Oui, c'est absolument la question essentielle. Moi, j'ai comment dire, depuis la rencontre avec Antoine Vitez, au début des années 80, quand je suis rentrée à l'école de Chaillot, j'ai une révélation grâce au théâtre de ce travail que fait l'acteur sur lui-même, de cet exercice perpétuel, de cette recherche, de ce laboratoire. Et puis, comme une sorte de... dans le cadre d'un destin, et peut-être aussi parce que je l'ai cherché et voulu, ça s'est poursuivi. Et ça s'est poursuivi aussi grâce à Vassiliev. Donc c'est pour ça que, après une longue interruption de plus de 10 ans, j'ai voulu retourner. Et j'ai voulu retourner... ce que j'appellerais tout simplement l'école. Voilà, parce que j'estime que sans école, l'acteur ne peut pas se développer. Et si on se développe pas, et ben on régresse. Voilà, donc c'est ça la spiritualité du théâtre pour moi. C'est la recherche.
Et c'est d'ailleurs cette école qui parfois vous met dans une immense jubilation de continuer d'apprendre, d'expérimenter, d'avancer, de chercher, et parfois dans une position de très grande fragilité, parce que vous écrivez dans ce journal, Valérie Dréville, j'ai l'impression d'être une écolière qui trébuche, à qui on dit comment faire, de pas forcément y arriver, de me retrouver parfois remplie de larmes à la fin d'une répétition. Donc on sent que cette école-là, elle est fragilité et force tout à fait mêlée, quoi, pendant le temps du travail.
Oui, bien sûr, parce qu'on est sur un territoire qu'on ne connaît absolument pas. Un territoire aussi de soi-même. Et donc là, c'est très déstabilisant. Et l'écolière, y a deux faces. Il y a celle qui est heureuse de l'être, et puis il y a celle qui se sent une écolière devant le regard de celui qui la regarde en tant que telle, Et voilà, il faut, comment dire, il faut arriver à surmonter ces peurs, ces angoisses, quoi. Parce que évidemment, c'est l'expérience, le laboratoire, il vous fait passer à travers des sortes d'épreuves, en fait, que demande ce travail. Que demande finalement quoi? Une sorte de dépassement des limites, une sorte de d'abandon de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire, pour autre chose. Et autre chose, on ne sait pas ce que c'est autre chose. Il vous amène là où vous êtes un peu nu, c'est le cas de le dire.
On écoute Anatoli Vassiliev.
La forme,
c'est quelque chose d'assez serré, d'assez rigide, d'assez finalisé, quelque chose qui, en principe, est immobile. Par contre, l'être humain, c'est quelqu'un qui est naturel, spontané, qui peut exister dans les expressions différentes, qui bouge toujours, qui est flexible, qui est souple. Et cette interaction, cette combinaison tellement difficile de la liberté
et de rigueur,
rigidité de la forme.
Мне казалось всегда это самым интересным в этой профессии.
Je pensais que c'est probablement le côté le plus intéressant dans.
Поэтому, собственно говоря, методика моей работы так и заключается, что.
C'est ça la méthodologie de mon travail.
Это исследование свободы внутренней жизни человека.
Première étape, c'est quand on essaie d'étudier la liberté intérieure de l'être humain.
Да, в условиях драмы, в условиях
Mais
драмы, в
условиях драмы. Mais dans les conditions du drame.
А второй этап. Это этап, когда актер выходит на сцену.
C'est cet instant quand l'acteur entre sur le plateau.
Это этап уже формы.
Et cela signifie déjà l'étape quand la forme arrive.
Anatoli Vassiliev, au micro de Laura Lerner en 2016, on entend combien la question de la forme, de la matière, du matériau, je le citais tout à l'heure en reprenant les mots que vous partagez avec nous, Valérie Dréville, dans ce journal de reprise et de répétition de mes matériaux, on entend qu'il y a un lexique, un vocabulaire de travail propre à Vassiliev, si bien que vous proposez à la fin de votre livre un lexique. Est-ce qu'il vous a fallu du temps pour, au-delà du russe, comprendre cette langue ?
Ah oui, c'est pour ça qu'il a fallu revenir et revenir encore et toujours à Moscou et puis maintenant ici en France. Vassiliev, au départ, c'est un scientifique, c'est un chimiste de formation. Et puis l'école russe de Stanislavski, elle considère le théâtre comme une science. Évidemment, c'est pas une science exacte, parce qu'elle est sans cesse redéfinie par la pratique. Mais que fait-il Stanislavski au début du siècle? Il invente un lexique qui permet de nommer les comportements de l'acteur. Et donc, de les posséder. Qui permet à l'acteur d'avoir une forme d'objectivité vis-à-vis de son instrument qui est lui-même. Donc évidemment, c'est compliqué, c'est pas comme un musicien qui a son violon et qui peut...
C'est intérieur.
Oui, c'est à la fois intérieur et extérieur. Parce qu'il y a aussi l'espace, il y a aussi le partenaire, il y a aussi le texte, les matériaux extérieurs. Donc c'est une construction à la fois intérieure et extérieure. Et pour ça, il y a... Alors, évidemment, le mot théorie fait peur parce qu'elle a l'air d'être rigide, mais c'est comme apprendre les règles d'un jeu. Voilà, s'il n'y a pas de règles,
on joue pas.
On joue pas. Donc, et oui, ça prend du temps, mais c'est absolument passionnant. Par exemple, moi j'ai réalisé en arrivant là que. Toute réussite ou tout échec a des causes et qu'on peut les trouver, les nommer. Donc c'est un terrible soulagement parce que qu'on soit désespéré d'avoir raté un rôle ou une scène, ou qu'on soit au contraire sur les cimes de la plus grande réussite et du triomphe.
Il y a une rationalisation possible.
Voilà, il y a une certaine distance à trouver, une façon d'objectiver son propre travail, de le penser. Et l'acteur qui sait ce qu'il fait, pour moi, est un acteur heureux.
Vous parlez dans ce livre, Valérie Dréville, de ce que vous appelez le training verbal, et ce que Vassiliev appelle ça aussi, mais dans un premier temps avec quelqu'un qui s'appelle Ilia. Je vois des scènes sur un balcon, sur des terrasses, d'un travail extrêmement rigoureux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et qui a à voir avec, comme si vous repreniez la danse, quoi. Comme si vous dérouillez quelque chose après 10 ou 11 ans qui se sont écoulés depuis la fin de Mes Dématériaux, première version.
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer presque à chaque fois avec Anatoli Vassiliev, bien que d'un autre côté, chaque répétition d'un nouveau matériau, d'un nouveau spectacle, par exemple là on vient de faire le récit d'un inconnu de Tchekhov, c'est on est surpris à chaque fois, c'est comme un autre monde, une autre atmosphère. Donc c'est lui et c'est pas lui. Mais d'un autre côté, il y a des constantes. Par exemple, le fait que le physique a une importance, l'action physique a une importance quasiment première. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a créé Médée, au début des années 2000, je le jouais de façon irrégulière. Dès que j'avais un peu de temps libre, on organisait une petite tournée en Europe, on reprenait le spectacle à Moscou, on l'a refait à Nanterre, etc. Et ça commençait toujours par la mise en scène de toutes les actions physiques, de tous les gestes, avec les accessoires, avec la robe, etc., etc., sans le texte. Pourquoi ? Parce que si on commence par le texte, on se souvient, disons, des clichés de la représentation et la mémoire se met en mouvement d'une façon, non dans un processus mais dans un résultat. Voilà, on se souvient de ce qu'on faisait et on veut en quelque sorte retrouver cette mémoire. Alors que le corps, lui, a une mémoire beaucoup plus profonde et plus vraie. Et c'est par le corps qu'on va trouver cette liberté et cette justesse. Cette vie intérieure, quoi, finalement, dont il parlait là tout à l'heure, à l'instant. Pour la reprise de Médée, ça a été exactement la même chose. On a commencé, et pour reparler de ces exercices spirituels dont il parle dans la lettre, on a commencé par les trainings physiques, même pas le training verbal. D'abord, ça a été simplement le training physique. Donc, il y a Cosine. C'est un acteur qui fait partie, qui faisait partie de sa troupe à Moscou, et qui est en même temps professeur d'arts martiaux, qui a étudié en Chine. Et il est venu à Paris 6 mois avant le début de nos répétitions pour me faire m'entraîner à cette qualité de l'énergie dont parlait Vassiliev tout à l'heure. On a fait plusieurs sessions et entre ces sessions, je travaillais seule, principalement sur, on va dire, des techniques de tai chi. Et donc, je suis rentrée dans le territoire de Médée par cette porte. Donc, le physique, l'énergie, et des énergies fines, aussi intérieures, de construction aussi par rapport à l'espace. Et puis ensuite, avant les répétitions, on a commencé en effet le training verbal. Alors, vous voulez que je vous raconte le training verbal? On pourrait en parler des heures et des heures, mais on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais essayer d'être concise. Alors...
Notamment pour ce que ça dit de la pensée de Vassiliev, vous disiez tout à l'heure l'importance du mouvement, mais pour ce que j'ai compris moi de ce training verbal, il y a aussi l'idée d'un temps, c'est-à-dire presque comme une sorte de frise de temps comme ça qui est toujours devant soi, Valérie Dréville.
Alors, ça a à voir avec ce dont il parlait tout à l'heure dans l'interview. Le son, on peut le considérer comme un objet. Donc, un objet qu'on peut lancer, qui peut voler en dehors de soi. Vous savez, quand on écoute, vous devez bien le savoir, vous êtes bien placé pour le savoir, quand on écoute sa propre voix, on est souvent surpris, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le son, en tant que tel, n'est pas notre son. C'est le son, mais qui passe à travers nous. Et si, par exemple, on nous met un baillon, aucun son ne peut sortir. Le son n'existe que s'il sort à l'extérieur de soi. Alors, si on veut obtenir quelque chose qui, un son qui ait une force qui soit plus grande que celle de ce qu'on utilise pour la vie quotidienne ou même sur les plateaux de théâtre, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va parler très fort, on va crier, et là on va utiliser ses muscles, ou alors on va essayer de trouver l'énergie du son. Et l'énergie, comment elle se trouve? Par la vitesse. Alors, le training verbal, c'est très simple. Il se fait assis. On construit la ligne verticale qui passe à travers notre corps par la colonne vertébrale et qui monte jusqu'au ciel. La ligne horizontale. Et on va essayer de lancer ce son comme s'il existait à l'extérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est vrai, il existe à l'extérieur de nous-mêmes. Et on va le lancer sur cette ligne horizontale jusqu'à la ligne d'horizon. Donc c'est un travail qui allie le mental et le physique, et grâce à ça, on obtient un son qui est infiniment puissant, puisqu'il a beaucoup d'énergie, mais qui n'a aucune...
Qui vous fatigue pas, par exemple ?
Qui ne demande aucun effort musculaire. Mais par contre, qui vous construit physiquement. Voilà, ça c'est une première chose, c'est la première dimension du training verbal. La deuxième dimension du training verbal, et qui est très très importante pour ce travail, que à vrai dire qui est la base de tout ce travail, c'est l'intonation affirmative. Et là, on n'est plus sur l'énergie et non l'acoustique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'entendre si le son est bon, il s'agit de percevoir s'il est en mouvement.
Vers l'infini, vers l'horizon.
Voilà. Et alors, l'intonation affirmative, c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire le son est considéré comme un objet, comme une pierre, qu'on peut faire tomber par terre. Sans oublier qu'il faut que le son aussi aille devant, pour avoir l'énergie. Donc, on construit ce que lui appelle la triade, c'est-à-dire les trois intonations qui existe, l'intonation exclamative, l'intonation narrative, celle qu'on utilise le plus souvent, que j'utilise là en ce moment parce que je vous raconte une histoire, et cette intonation affirmative qui existe peu, et sur nos scènes et dans la vie quotidienne. C'est une intonation qu'on retrouve plutôt dans des rites. C'est une intonation qui dit ce qui est. Et donc, exactement, cette intonation doit tomber comme on frappe de la main sur sa jambe. Elle doit tomber par terre. Voilà, donc le training verbal, c'est ça. Et ça demande beaucoup de temps, c'est un processus, parce que l'appareil vocal n'est pas habitué, c'est-à-dire qu'il faut, c'est comme de la gymnastique, quoi. Il faut former dans sa conscience et charnellement, physiquement, l'appareil à pouvoir accomplir ces deux choses-là.
On va vous entendre, Valérie Dréville, si vous voulez bien, dans mes matériaux, et à deux moments, en 2002 pour commencer, ensuite en 2017.
Désolé, non pour entendre que tu as joué avec les mains de ta troupe et la mienne, celle-là qui était mon frère. T'es enfant de la trahison plantée, Vodanda, mon cœur est parti avec votre père qui a fait de même. Avant vous, laisse-moi les enfants, Jasmine.
Deux fois votre voix, dans deux médias matériaux différents, à deux moments différents. Mise en scène toujours par Anatoly Vassiliev, Valérie Dréville. Et alors, bien sûr, on peut parler des enregistrements, des moments, etc., qui font que les sons sont différents. Cependant, moi, j'entends une très grande différence entre les deux moments. Et dans ce journal de répétition face à Médée que vous publiez chez les Actes Sud, vous comprenez à un moment donné du travail avec Vassiliev que l'idée ne sera pas de retrouver ce qui a été Médée matériaux à un moment donné, mais d'être dans quelque chose de nouveau.
Ah oui, ça a été, je dirais peut-être, ça a été le combat le plus violent que j'ai dû mener. Parce que je ne voulais pas refaire ce qui avait été. Ou peut-être inconsciemment, je voulais retrouver cette puissance, ce feu, je dirais. Je me suis rendu compte petit à petit et de plus en plus évidemment que
en le cherchant vous faisiez fausse route,
que il fallait traverser cette limite de la mémoire et aller au-delà. Et ça s'est fait, je pense, ça s'est fait beaucoup. Parce que cette deuxième fois, on a beaucoup plus travaillé et je trouve que ça s'entend là. Quand j'entends les deux, je l'avais pas fait d'écouter les deux enregistrements comme ça, côte à côte. Je trouve que ça s'entend. On a beaucoup plus travaillé sur l'aspect technique, mais qui n'est pas de la technique au bout du compte. C'est-à-dire cette intonation affirmative, on l'a beaucoup plus travaillé que la première fois où on était plus, je dirais, dans une chose. Plus connu pour moi aussi de relation à la figure de Médée, à l'histoire, à l'interprétation du mythe, à l'événement principal du texte de Heiner Müller, à des choses qui ouvraient un imaginaire pour moi plus connu, je dirais. Là, c'était vraiment une sorte de traversée du désert avec pour unique nourriture l'intonation affirmative matin, midi et soir.
Mais pour atteindre quoi, puisque vous parlez de ce premier feu que vous aviez à cœur consciemment ou inconsciemment de retrouver, dans le deuxième travail, avec matin, midi et soir, l'intonation affirmative, vous avez l'impression d'avoir été à quel endroit que vous ne connaissiez pas dans le précédent travail au début des années 2000 ?
Ah, quelque chose de plus, d'encore plus radical. C'est-à-dire que le contexte était très différent aussi, parce que quand j'ai commencé à travailler la première fois sur Médée, je venais de passer quelques mois en Russie, peut-être 5 ou 6 mois. Avec les élèves du laboratoire, je n'avais plus du tout, ils m'avaient enlevé tout interprète, donc j'étais en train d'apprendre le russe.
Donc interprète de la langue.
Voilà, interprète de la langue. Donc j'étais en train d'apprendre le russe, en même temps que j'apprenais le lexique théâtral, comme on a dit tout à l'heure. Et je ne parlais pas français depuis un moment, donc en fait je ne parlais rien. Je ne parlais vraiment aucune langue particulière. Quelquefois, on parlait un peu en anglais avec les acteurs du laboratoire.
Et c'était agréable ?
C'était étrange. C'était étrange, mais oui, j'aime ce genre d'aventure. Parce que qu'est-ce qu'il fait le théâtre, sinon de vous poser la question, qui êtes-vous ? C'est quoi l'identité ? Et il y en a, elle est multiple. Donc ce genre d'expérience aussi révèle des choses. Et donc, au moment où on a commencé à travailler, j'étais comme entre deux chaises. Enfin, je parlais ni français ni russe. J'étais dans une perte consentie, comme ça. Et on a commencé à travailler. Bon, j'ai fait beaucoup les exercices de l'intonation affirmative. Ce qui est très surprenant, hein, quand on arrive à sortir ce son qu'on n'a jamais entendu.
Qu'on entend là, ouais.
Ça fait quelque chose, hein. Ça vous fait pas rien. Et c'est pas une prouesse d'acteur. C'est quelque chose qui a à voir avec la personne, qui vous touche à un endroit, qui est difficile à parler. Je sais pas, il me semble, moi, mes expériences, fondatrices et inoubliables qui ont laissé comme des marques, je dirais qu'elles ont toujours à voir avec quelque chose qui a à voir avec la petite enfance. Mais on pourrait dire d'autres choses, mais peut-être aussi... je sais pas, là, cette dernière fois, je pensais beaucoup à la mort en travaillant avant d'aller en scène, pas du tout d'une façon sinistre, hein. Voilà, donc ça touche des choses vraiment particulières.
Pas du tout quotidiennes.
Peu, oui, peu. Et donc, quand on a commencé à travailler sur le texte, c'est-à-dire non seulement avec l'intonation affirmative, mais aussi la scansion, parce que le texte est noté comme une partition.
Avec des fragments.
Pas d'une façon fixe, mais comme une espèce de transe, comme une espèce de balancement qui vous emmène ailleurs. Et pas dans le sens premier du texte, vous voyez. Eh bien, je peux dire que j'ai eu une sorte de trouble très... comment dire, très... Enfin... inoubliable, je sais pas dire autrement, de ne plus reconnaître ma langue. Et ça... je sais pas comment... je sais même pas comment en parler, enfin, c'était une expérience que je peux pas oublier. Voilà, donc quand on a repris 11 ans après les dernières représentations de cette première version, évidemment j'avais tout ça. Évidemment j'avais tous ces souvenirs, cette mémoire. C'était intimidant même de se dire, bon, j'ai fait ça, est-ce que je vais arriver à le refaire? Déjà au niveau où j'étais il y a 11 ans. Alors évidemment, il a fallu se débarrasser de tous ces challenges un peu superficiels, un peu qui touchent peut-être à l'ego de l'acteur, je ne sais pas, à l'ambition, et puis aller voir ce qu'il y avait derrière. Et ça s'est fait dans un autre contexte tout à fait, puisque je n'étais plus en Russie dans son théâtre, mais à Paris dans une production française. Donc déjà là. La situation est complètement différente, mais il a quand même fallu se déplacer, même si c'était dans un contexte connu, se déplacer à nouveau vers quelque chose d'absolument inconnu. Et je sais pas, par exemple, je me souviens d'une répétition, je crois que j'en parle dans le livre, où je galérais vraiment sur cette intonation affirmative, c'est-à-dire je l'avais, et puis je la perdais, elle restait pas. Et un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, mais c'est pas le problème que tu ne l'as pas. Le problème, c'est que tu n'y crois pas. Alors, rentre chez toi et réfléchis à ça. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi-même que je ne suis pas capable de garder une intonation affirmative plus de deux phrases de suite. Voilà, donc... c'est sûr que le théâtre poussé à cet endroit-là, il vous pose toujours, au bout du compte, la même question. Et je pense que pour le spectateur, c'est pareil. C'est qui es-tu ?
little girl. Little girl, I feel it.
J'attache un grand intérêt à la diction. Ulysse Di Gregorio aussi, ça tombe bien. Claude Régis. Oui. Enfin, les gens avec qui je travaille, on aime beaucoup la profération, le récit. Je me sens souvent plus récitant qu'acteur, conteur qu'acteur. C'est pour ça que mes rencontres sont souvent des choses de soliste, parce que ce sont des œuvres aussi. Et la transe est possible aussi dans la durée. Vous voyez, quand on est lancé pour 1h30, 1h15 ou 1h50, 2h de solitude, d'affronter comme ça une traversée, la transe s'obtient par la durée. Vous voyez, c'est comme un derviche tourneur. Il a besoin de se lancer pour arriver à cet état. Donc le solo me permet ce plaisir. On est, comme dirait Novarina, on est le tuyau hein, dans lequel passe l'air du poète. Et en même temps, la transe, elle est nécessaire puisqu'elle est l'effort. La transe, elle est la volonté de l'effort, comme le derviche qui se met en transe, il se met en tourne comme ça, il tourne et il obtient. Donc nous, on est un peu les deux, c'est-à-dire que on veut obtenir la possession par la transe.
C'est la voix du comédien Jean-Quentin Châtelain qu'on vous fait écouter, Valérie Dréville, qui vient presque à la fois vous rejoindre à l'endroit du mot de la transe que vous prononciez tout à l'heure à propos de cette mise en scène de Mais des matériaux avec Anatoly Vassiliev, et en même temps s'éloigne complètement de ce que vous disiez de l'absence d'effort. C'est-à-dire Jean-Quentin Châtelain dit on atteint la transe parce qu'on se met dans un effort. Alors ma question c'est, avec l'absence d'effort que vous décriviez tout à l'heure, et non pas l'absence de travail, est-ce que vous l'atteignez aussi ?
Non, mais l'effort, il est dans le travail acharné pour arriver justement à la détente. C'est là qu'il y a l'effort, mais après, ça doit être ouvert et calme et doux presque. Moi, je parlerais plus tôt, mais je reconnais absolument ce que dit Jean-Quentin, et quand on le voit jouer, c'est évident et magnifique. Moi, je parlerais, par exemple, pour m'aider, je parlerais plutôt de courage. Il faut avoir du courage.
Pour cette transe.
Mais un courage, je dirais, pas moral. Le courage dans le sens guerrier. Pour affronter quelque chose, justement, que on n'est pas sûr de savoir faire, puisque elle ne vous appartient pas. Voilà. C'est-à-dire que. Où elle vous appartient à un endroit où vous vous connaissez mal. Voilà, c'est ça plutôt, on pourrait dire. On pourrait dire que, oui, ce genre de travail vous fait accéder à une dimension de vous-même, ou de l'être, que pas grand-chose peut vous révéler. À part ce type de travail au théâtre.
Et c'est étonnant parce qu'en vous écoutant Valérie Dréville, à la fois vous prononcez beaucoup le nom de théâtre, le mot de théâtre, donc ça nous parle aussi de nous qui venons assister, qui venons partager, et en même temps, J'ai l'impression que ça n'est pas trop votre question. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous, que ce que vous dites là, c'est quelque chose que vous montrez à des gens.
Je suis pas sûre d'avoir compris, en fait.
Bah, c'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, je vous écoute parler de théâtre et je me dis, mais j'ai pas l'impression qu'elle nous parle de quelque chose qu'elle montre. J'ai l'impression qu'elle nous parle de quelque chose qu'elle vit. Et nous, on est là aussi. Mais on n'est pas vraiment là pour regarder.
Absolument. Absolument. Comment dire? Mais des matériaux, par exemple, se jouent sans quatrième mur, hein. Ça, c'est bien clair et évident. Mais, ce qui se passe sur le plateau et ce qui se passe dans la salle, bien sûr, quelque chose se fait dans une communauté, mais on a des rôles bien séparés. C'est comme, parce que quand on a commencé à jouer, et ça c'est une chose intéressante, que on a eu beaucoup plus de départs en 2018 qu'en dans les années début des années 2000.
C'est-à-dire des gens qui se lèvent, qui partent.
Ah, beaucoup plus de manière très très forte. Et donc évidemment c'est perturbant pour l'acteur, d'autant plus qu'il est seul en scène. Et donc je posais la question à Vassiliev, je disais oui. Il me demandait, alors, qu'est-ce que tu penses de après la première, de ton travail? C'est toujours, il pose toujours cette question. Alors, c'est à toi de dire, comment tu as traversé tout ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Quels sont les points où il y a des problèmes? Ou au contraire, là où ça s'est bien passé? Et je parlais de la relation au public. Et il me disait, oui, mais bon, c'est comme si, par exemple, un office, l'officiant, il fait son travail. Les gens sont là, ils partent, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas son affaire, vous voyez? Donc, en effet, comme disait Jean-Quentin tout à l'heure, on est une sorte de
tuyau.
De tuyau, absolument, ou de passeur. On doit être le plus transparent possible pour ça. Donc, même si l'ego l'aspect personnel de la présence de l'acteur existe aussi, il faut essayer de dealer avec tout ça et n'être que dans l'agir, finalement. Parce que c'était ça le... si on peut essayer de focaliser un peu ce qui est cherché là, c'est de quel acte il est question. Alors, comme l'acte passe à travers la parole, beaucoup dans ce théâtre, la parole est travaillée, mais c'est l'acte qu'on cherche, le fait d'agir.
Qu'est-ce
qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Médée? Ou la personne, à travers la personne qui accomplit ce spectacle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec Médée?
Et qui
grâce
va
à Médée.
Au-delà du texte de Rainer Müller, du sens, au-delà même du mythe, au-delà des marionnettes des enfants, de la robe qui brûle, l'acte qu'elle est en train de faire et qui exploserait ces sens-là.
C'est une question que vous me posez. Vous avez...
Pour essayer de préciser cette question-là de qu'est-ce qu'elle est en train de faire.
Vassiliev, par exemple, si on lui pose cette question, il ne va jamais répondre directement. Parce que...
Malin.
Pourquoi? Ben oui, parce qu'une fois qu'on a nommé, c'est comme une allumette. ça disparaît. Ça s'éteint, ça disparaît, ça part en fumée et ça nous échappe. Donc, il vaut mieux garder ça secret. Mais de quoi il s'agit? À travers l'actrice ou la personne, même on pourrait dire encore en amont de l'actrice, la personne, à travers cet acte, à travers Médée, il y a une rencontre entre cette figure et moi, ma personne. Et cette rencontre va m'amener quelque part. Après, on peut en faire des poèmes.
Et on peut se taire.
Ou des rêves. Et aussi, et surtout, on peut se taire parce que ça va au-delà de même de ce qu'on peut dire. Donc, et puis c'est le travail lui-même. C'est-à-dire que chaque jour, c'est à re-rêver, à redéfinir, à ressentir, à redanser. Parce qu'on pourrait dire la transe, on pourrait dire la danse. On peut dire c'est la transe aussi qui nous amène à cet endroit qui n'a pas de nom et où tout est où tout est purifié, on va dire, où tout est à nouveau, où comme elle dit moi, ni homme ni femme, plein de choses on peut dire.
On va terminer, si vous voulez bien, avec une archive de Heiner Müller.
Alles, was im Theater gesagt wird, kann man nicht mehr zurücknehmen, wenn es einmal auf der Bühne gesagt worden ist.
Et tout ce qui est dit au théâtre, tout ce qui est dit sur une scène, c'est une chose dite qu'on ne peut pas reprendre.
Und das Theater kann Grenzen erweitern und überschreiten.
Le théâtre
ist Grenzüberschreitung jetzt.
Le théâtre peut écarter les frontières et peut transgresser les frontières. Faire du théâtre, c'est une transgression de frontières.
Illusionen zerstören will oder mich stört, wenn Leute sich wohlfühlen, dann will ich, dass sie sich schlecht fühlen.
Il a envie, de détruire des illusions, par exemple, lorsque les gens se sentent bien, se sentent bien, il a envie qu'ils se sentent mal.
Und ich fühle mich wohl, wenn ich erreicht habe, dass die Leute sich nicht mehr so wohlfühlen.
Et lui commence à se sentir bien lorsque les gens cessent de se sentir bien.
Mais c'est par pure perversité ou par pessimisme total sur la bêtise universelle.
Nee, es ist weder pervers noch zynisch.
Ich glaube, es ist ganz normal. Ni pervers, ni cynique.
Es ist doch langweilig, wenn Theater, die Wirkung von Theater darin besteht, dass am Schluss alle fröhlich applaudieren und alle sind sich einig, es war ein schöner Abend. Das ist langweilig. Und es ist viel interessanter, wenn die Leute nicht einig sind. Was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Leute sich eher allein fühlen nach einem Theaterabend und nicht als Gemeinschaft. Sie sind ja keine Gemeinschaft, sie sind ja verschiedene Interessengruppen.
Il trouve qu'il y a quelque chose d'ennuyeux lorsqu'à l'issue d'une représentation théâtrale, les gens sont contents. Et c'est une chose qu'il souligne volontiers, qu'il a déjà souligné auparavant, c'est qu'il souhaite que les gens, à la fin d'une représentation théâtrale, se sentent seuls, se sentent isolés, se sentent dans la solitude, ne se sentent pas réunis dans une communauté.
C'est la voix d'Heiner Müller dans une archive de 1989, Valérie Dréville. J'ai envie qu'ils se sentent seuls, les gens qui viennent au théâtre, qui vivent avec le théâtre. Je n'ai pas envie qu'ils fassent partie d'une communauté. Ça va bien à rebours de tout ce qu'on peut entendre sur la volonté de réunir et de communauté pour le théâtre, peut-être. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, à la fin de votre livre, après avoir proposé une première fin, qui serait la représentation où la robe prend feu, on est au théâtre et d'une certaine manière, ça se passe. Ça se passe pour mettre des matériaux, ça arrive. Vous dites, c'est pas exactement la fin. Je voudrais terminer ce livre en disant que ce qui s'est passé, c'est peut-être la possibilité de forme de vie nouvelle. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah, ça rejoint un peu ce dont parlait Vassiliev dans la lettre. Hein. Et ça rejoint ce que vient de dire Heiner Müller, c'est-à-dire que le théâtre... ouvre des territoires pas encore connus.
Mais pour chacun.
Pour chacun, oui. Et je pense que cette solitude dont il parle, c'est ça. C'est-à-dire, comment ça résonne une chose comme celle-là, si quelqu'un la prend, parce qu'on peut aussi la rejeter et très fortement. Comment ça résonne et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, cet acte? Cet acte... qui est un acte qui est jamais répété, qui est comme la naissance ou la mort. Qu'est-ce que ça fait quand ça résonne en soi? Voilà, ça fait peur, ça fait quoi? Même si ça fait rire, par exemple, quelquefois, il y avait des gens là à la reprise, ça faisait rire. Moi, je ne trouve pas ça... Sur le coup, c'est pas agréable, mais quand j'y pense, le rire, c'est bien quelque chose qui amène... Enfin, qui crée un décalage, qui montre un déplacement. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on se défend avec le rire. Le théâtre doit provoquer, doit nous provoquer. Alors, on est bien, on se sent mal. On rit à une tragédie. Vous voyez? Ça crée... ça agit sur, ça modifie, ça fait quelque chose, ça nous fait quelque chose. Et c'est ça la vie nouvelle.
Celle dont il faisait l'hypothèse dans la lettre que vous publiez dans votre livre au départ et que lisait tout à l'heure au tout début de notre entretien, Romain de Bec de Lièvre, où il disait « Il faut que tu sois prête, Valérie, à cette vie nouvelle ». Alors, sans entrer dans des détails qui seraient des détails qui vous regardent, mais est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a ouvert cette reprise du travail avec Bassiliev sur la possibilité d'une vie nouvelle?
Mais après, c'est quoi la vie nouvelle? Est-ce que c'est la vie artistique ou est-ce que c'est la vie privée? Peu importe. Je crois que lui, il ne fait pas de distinction, en fait. Par exemple, là, on vient de refaire un spectacle. On a fait le récit d'un homme inconnu. Où il est tout le temps en question de la vie nouvelle, du désir de la vie nouvelle. Et c'est peut-être seulement quelque chose, on tend vers, c'est peut-être seulement un élan, mais l'avoir, cet élan, ça change tout.
Un très grand merci d'avoir partagé une heure avec nous, mais surtout, et peut-être d'avoir partagé tout ce travail dans ce journal de répétition, c'est extrêmement précieux. La préface est signée Antoine de Bec et l'avant-propos très drôle, d'Anatoly Vassiliev, et c'est publié aux éditions Actes Sud face à Médée, journal de répétition. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Jean-Michel Bernon, à la réalisation Milena Elig, Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.